Didier Bovard, bonjour.
Bonjour Michel.
C'est un retour depuis quelques jours sur la terre ferme, après cette aventure, parce que c'était une aventure, cette traversée de l'Atlantique en pédalo. Ça, c'est pas courant. Alors, on peut peut-être revenir un petit peu dessus, on en avait parlé ensemble il y a déjà quelques temps, mais comment est-ce que l'idée est venue? Alors, on vous connaît comme, j'allais dire, navigateur solitaire, puisque le pédalo, ça fait un moment qu'il tourne quand même, ça fait quelques années.
Oui, j'ai fait plus de 20 000 km avec mon hydrocycle, MyWay. Et voilà, le dernier projet en revenant du Groenland, puisque j'ai fait la mer du Labrador au Groenland pour parler de la disparition malheureusement de l'ours. Après, j'ai fait le tour du lac Léman en pédalant sous l'eau.
Ça, c'était il y a 2-3 ans.
Oui, c'était en 2020. Et ensuite, ben voilà, je travaillais sur mon bateau au port de Thonon. Et les gens venaient me voir et me demandaient quand est-ce que j'allais repartir. Mais moi, j'avais vraiment pas l'intention. Ouais. J'avais dit aux journalistes, moi qui étais présent, non, moi c'était, voilà, je prends ma retraite parce que je crois que j'avais assez donné, assez eu de frayeurs en mer et autres.
J'imagine, ouais.
Donc après, je me suis dit, non, c'est bon, je vais rénover le bateau. Et après, moi, le principal, c'était de trouver un musée.
Ouais.
Parce que ce bateau, il a tellement un historique qui est magnifique, donc je voudrais quand même que les gens l'admirent, quoi. Et voilà, les gens sont venus me voir, surtout les enfants. Quand est-ce que tu repars? On a envie de te suivre et tout. Et puis voilà. Puis comme on n'était pas sorti du confinement, en fin de compte, je me suis dit, ben voilà, le but, la rigueur, si je repars, c'est de parler de la liberté qui nous a tellement manqué. Et voilà, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à cogiter comme d'habitude, et je me suis dit, bon, ben allez. La liberté, le symbole de la liberté, c'est la statue de la liberté à New York. Et j'ai regardé un peu sur Internet tout ça. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi je ne ferais pas Paris, New York, en pédalant sur terre et sur mer.
Oui.
Puisque quelques années avant, j'avais fait Évian où je suis né, à Memphis, où est mort Elvis Presley, pour rendre hommage au King. Tout ça en pédalant sur terre et sur mer.
D'accord.
Donc voilà, le projet est né comme ça, quoi. Je me suis dit, allez, on va essayer de monter ce projet. Paris, New York, en pédalant sur terre et sur mer.
Voilà, alors départ en vélo, mais le bateau, lui, il a pas pédalé sur terre, donc il a fallu l'emmener à la pointe de l'Espagne, par là-bas. Hein,
oui, voilà, donc j'avais un copain qui s'appelait Gégé, donc lui, il conduisait la voiture, il tractait mon bateau, et moi j'ai fait Paris, Sagres, au sud du Portugal, en vélo. Donc,
oui, carrément, le 2000, Portugal, voilà. Plus loin que l'Espagne.
Voilà, 2000 km, ça c'était la mise en œuvre. Et après, il a fallu mettre le bateau à l'eau, donc au bout de quelques jours, et j'ai traversé en 32 jours jusqu'à Tenerife. Donc là, j'ai eu des grosses frayeurs, j'ai eu 5 jours de grosses tempêtes avec des creux de 7-8 mètres.
Ouais.
Donc là, c'était vraiment très très chaud. Même à l'arrivée sur Tenerife, ça a été très chaud. Donc voilà. Après, je suis revenu en France pour passer les fêtes avec mes parents et ma famille. Et ensuite, je suis reparti une nouvelle fois de Tenerife. Là, au bout de 4 jours, je suis arrivé sur l'île de Hierro.
Mmh.
J'ai eu un problème logistique, donc j'ai dû m'arrêter. Et après, ça a été la grande traversée de l'Atlantique.
Combien de kilomètres, là?
Ben là, c'était 5500 kilomètres l'Atlantique.
Ouais.
Donc, on a pris, parce que impossible d'atterrir sur une côte.
Ouais.
Donc, le courant, le Gulf Stream nous a ramené trop au nord.
Mmh.
Donc, on a pris la longitude de la Martinique pour savoir qu'on avait traversé l'Atlantique. Donc, au bout de 126 jours, quand même, je l'ai traversé 3 fois. Donc, la première fois, c'était en 117 jours. La deuxième fois, en 88 jours. Et là, en 126 jours. Et je me suis dit, on ne peut pas atterrir sur une île, donc on va essayer de continuer sur New York.
Ouais.
Malheureusement, 11 jours plus tard, donc 137 jours de mer, les gardes-côtes américains, donc ils sont basés sur San Juan à Porto Rico, ils m'ont pratiquement supplié d'arrêter mon projet parce qu'il y avait une grosse tempête tropicale qui arrivait.
Ouais.
Voilà, donc je n'étais pas là aussi pour jouer les héros. Hein, donc
ouais.
Moi, j'ai des écoles qui me suivaient, donc je me
dit,
il faut être sage. Voilà, donc c'est un cargo turc qui est passé par là et puis qui nous a... Parce que moi, j'avais dit aux gardes-côtes, j'ai fait un deal, j'ai dit... Moi, je veux bien monter sur un cargo, mais il faut prendre aussi MyWay. Hein.
Ouais,
ce qui fait que la veille qu'il y ait ce cargo turc, il y a eu déjà un cargo qui est arrivé, mais lui, il n'avait pas de grue pour...
Pour le hisser.
Voilà. Donc, j'ai dit au capitaine, j'ai dit, vous me laissez de la nourriture, de l'eau, parce que j'en manquais cruellement.
Ouais.
Mais autrement, vous me laissez repartir, j'attendrai un autre bateau.
Bien sûr. Parce que la difficulté, c'est d'estimer ce dont on a besoin en matière d'eau. On parle, hein, parce que c'est très important, quand même.
Ouais.
Parce qu'on peut, à la limite... Se passer un peu de manger, mais de boire, c'est quasiment impossible. Enfin, ça, faut estimer tout ça, et j'imagine que c'est pas simple.
Oui, mais j'avais bien estimé tout ça, puisque si on serait arrivé sur une côte, j'avais encore de l'eau, j'avais encore une réserve d'eau en petite bouteille. J'avais un désalinisateur, je pompais pendant une heure, ça faisait un litre d'eau, donc ça, c'est un complément. La nourriture, j'en avais encore assez. Mais malheureusement, vu qu'on n'a pas pu atterrir sur une île, eh ben voilà, les 11 jours qui ont précédé, enfin qui ont continué après la traversée de l'Atlantique, c'est là qu'il m'a manqué le plus de nourriture. Ouais. Donc là, j'ai perdu quand même 25 kilos en presque 5 mois.
Quand on mange pas, effectivement,
c'est. Ah ben oui, là c'est un sacré régime.
Il faut pédaler quand même.
Il faut pédaler, c'est 10 heures de pédalage par jour.
Ouais, c'est pas rien quand même.
Je commençais à regarder les poissons, parce que moi j'ai la fierté de dire que à chaque fois j'ai traversé l'Atlantique, donc j'ai quand même 29 000 kilomètres au compteur. J'ai jamais pêché un poisson, parce que pour moi les poissons là qui m'accompagnaient, c'est des amis.
Ouais.
Mais là je commençais à les regarder différemment, parce que je me suis dit dans quelques jours je vais crever la dalle, et à un moment donné je vais être obligé de les pêcher.
Forcément, on en mange des poissons. Alors après c'est un débat, on en mange pas, ça c'est
exactement
chose, difficile de faire du véganisme au milieu de la mer quand même, je pense. Voilà, et puis donc alors l'aventure s'est arrêtée à combien de kilomètres des côtes américaines?
Ah ben là, moi j'étais à 500 km au nord de Porto Rico, et puis il fallait encore entre 30 et 40 jours pour arriver sur New York. Donc là, j'avais encore de quoi faire. Mais malheureusement, le temps que j'ai perdu à mettre le bateau à l'eau à Tenerife, parce que je suis parti quand même début février, ce temps-là, je l'ai payé par la suite, parce qu'après, il y a eu les tempêtes tropicales qui se sont mises en place.
Alors j'imagine que c'est quand même un peu vexant quand même, quand on a mis tout ce temps de préparation dans l'esprit quand même, c'est de se dire on va au bout, mais bon c'est bon.
Ah tout à fait, tout à fait, mais moi j'ai déjà eu des échecs au Groenland, c'est toujours pareil, à un moment donné il faut savoir si on est là pour risquer sa vie si on est là pour revenir et raconter tout ça dans un livre et dans un film. Moi je crois que ça fait partie de... Ça fait partie de l'aventure. Je fais beaucoup de conférences dans les écoles après. Je passe le message, justement. Dans la vie, on imagine des projets, on les réalise, mais parfois, il y a des échecs au bout.
Bien sûr.
Mais il faut rebondir avec ces échecs.
Tout à fait. Oui, puis l'échec fait partie, effectivement, comme vous dites, de l'aventure. Alors, l'idée, c'était aussi d'aller placer une capsule quelque part sous la Statue de la Liberté. Alors, est-ce que ça a pu aboutir, tout ça?
Alors là, la capsule temporelle, c'est l'idée que j'ai eue. À l'intérieur, il y avait une clé USB.
Oui.
Et à l'intérieur, enregistré, il y avait des messages des enfants, des écoles. Donc, il y a Jeanne d'Arc sur Tonnant-les-Bains. J'ai Rêve Rose aussi, j'ai Messery, j'ai une école à Genève et j'ai une école aussi en Floride, une école française.
Ouais.
Alors eux, ils m'ont envoyé des messages d'amitié, d'amour, d'encouragement.
Ouais.
Et l'idée, c'était de la déposer au pied de la Statue de la Liberté. Mais encore là, ça a été une sacrée galère et interdiction de faire un trou sur l'île, justement où il y a la statue.
Ouais.
Donc ce que j'ai fait, j'ai laissé la capsule à un copain là-bas, breton, qui travaille sur une île qui est juste en face de la Statue de la Liberté.
Ouais.
Qui s'appelle l'île Governors.
Ouais.
Et là, il m'a dit, écoute, j'en ai parlé autour de moi, tout le monde trouve l'idée géniale, on va faire un courrier, on va demander les autorisations.
Ouais.
Et lui, il pense qu'il y a de grandes chances qu'on puisse laisser la capsule sur cette île.
Parce que l'idée, ce n'est pas de l'enterrer, qu'on ne la retrouve pas, c'est quand même qu'elle soit
Il faut l'ouvrir, c'est marqué dessus, il faut l'ouvrir en 2032.
C'est ça. En espérant qu'on puisse lire encore les clés USB, on trouvera bien le moyen.
J'espère.
de toute façon, il y aura... La technologie évolue quand même.
Dans 10 ans, c'est pas loin.
Tout ça, c'est pas si loin que ça, effectivement. Ouais. Donc voilà, enfin une belle aventure quand même, parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir des coups de mou, des coups d'enthousiasme, un peu beaucoup de choses quand on affronte des tempêtes, des cargos, parce qu'on s'était téléphoné au milieu de l'Atlantique, une fois ou deux d'ailleurs. C'est sûr que c'est ça. Moralement, c'est pas toujours simple à vivre, je pense.
Ah non, puis tout le départ, il a vraiment pas été coton. Je faisais des demi-tours, je faisais des ronds. Après, je repartais. Après, il y avait un bon courant. Et puis, on n'a jamais eu vraiment de bon courant jusqu'au bout. Et à un moment donné, il y a eu tellement un calme. Il y a eu plus de 40 degrés dans le bateau. Je me suis dit, à ce moment-là, je vais quand même aller vérifier sous la coque ce qui se passe.
Ouais.
Et quand j'ai été sous la coque, c'était un spectacle incroyable. Il y avait des anatifs, des coquillages qui étaient collés à la coque, qui tapissaient carrément la coque. J'ai passé une demi-heure à essayer d'enlever le maximum, mais...
Ouais.
Après, je me suis dit, c'est pour ça aussi que je ne vais pas très très vite des fois sur l'eau.
Et puis, aller faire du nettoyage sous la coque avec la mer qui bouge bien.
La mer, elle était vraiment calme, mais c'est toujours un danger. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
Oui, parce que le bateau peut s'éloigner et terminer.
Là, il n'y avait pas trop de risques, parce que comme la mer était calme, Je ne me suis même pas attaché, hein, j'étais comme ça, libre, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir un mauvais poisson qui est dans le coin.
Qui
et
pousse
puis
un peu le truc.
On ne sait jamais, des fois, il faut toujours faire attention.
Bien sûr. Bah, c'est une aventure, hein. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fait tous les jours non plus.
Tout à fait.
Je pense qu'il faut quand même une sacrée préparation. Donc, alors la suite maintenant, conférences et puis des livres, sans doute.
Tout à fait, ouais. J'ai un quatrième livre en préparation qui va sortir au printemps prochain avec le troisième. Hein. Le troisième, ça sera le Groenland et le tour du lac Léman en pédalant sous l'eau. Donc là, dernièrement, le week-end dernier, c'est pas vieux, hein, j'étais au Festival du Livre à Abondance, organisé par Jessica, et j'étais avec mon éditeur, Bernard Paco, donc édition de l'Astronome. Et voilà, donc les gens étaient très enthousiastes à venir nous voir. On a vendu pas mal de livres, voilà, ils sont très passionnés. Et on va continuer sur cette lancée. J'ai fait une conférence hier à Montreux. Mm-hmm. Donc moi, c'est le plaisir, hein, c'est de continuer justement cette aventure en écrivant, en faisant découvrir mon aventure, toutes mes aventures, hein, parce que ça fait quand même plus de 25 ans que je fais ces aventures-là. Et après, conférence aussi dans les écoles. Et un film, Christophe Tizong est en train de concocter, il paraît, un superbe film, là, avec toutes les images qu'il a reçues. Hein. Donc j'ai hâte de le voir, et ça va être pour mes prochaines conférences.
Exactement, et ça permettra à tous ceux qui ont un peu le mal de mer ou qui n'ont pas tout à fait le pied marin de vivre l'aventure par personne interposée, ce qui est très bien comme ça.
Ouais. Et puis là, si je peux lancer un message, donc, c'est sûr que là je recherche à faire des conférences un peu partout, côté France, côté Suisse, les comités, les clubs, les associations, enfin tous les groupements de gens. Là, peut-être amener le bateau aussi, parce que mon bateau, il faut en parler aussi. Hein. Là, il a traversé l'Atlantique sur un cargo cette fois.
Ouais.
Il est arrivé à Marseille et là, j'attends des nouvelles pour justement aller le chercher. Donc après, il y aura peut-être aussi possibilité pour des conférences d'amener le bateau.
Bien sûr, oui, parce que c'est un personnage à part entière. Hein,
On forme un couple, hein. On est un vieux couple, les deux. Ça fait 27 ans que je l'ai construit, mon bateau.
Et il était costaud, oui. Un bateau qui a été fabriqué en partie côté Suisse.
Côté Suisse, à Tolochena, chantier Morero, Raymond Morero, c'est un ami. C'est grâce à lui que j'ai pu réaliser mon rêve. Et aussi Daniel Auberson, qui était le concepteur du côté cycliste. Donc ces deux personnes-là, grâce à eux que je suis parti dans mes aventures.
Le Swiss Made, c'est important quand on domine.
Exactement. Et moi, j'ai un grand-père suisse, donc je suis toujours bien accueilli du côté suisse.
D'accord. Didier Bovard, merci. Et puis, on reparlera de tout ça, sans doute, au fur et à mesure de l'arrivée des livres et du film.
Ok, merci.